RFI, 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel et à Nouakchott.
Sébastien Duhamel.
Bonjour à tous, bienvenue pour votre dernier journal africain de la matinée et à la une. Retour sur la journée de vote hier en Mauritanie, élection présidentielle, plus d'1 900 000 électeurs étaient appelés aux urnes. La RDC, avec un contexte sécuritaire troublé, les rebelles du M23 qui progressent dans l'Est. La RDC qui fête pourtant aujourd'hui le 64e anniversaire de l'indépendance. Pas de débat sur l'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale du Sénégal hier. Nouvel épisode du bras de fer qui dure depuis plusieurs jours autour du refus du Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale. Et puis du football avec un transfert. L'international marocain Hakim Ziyech s'engage définitivement avec le club turc de Galatasaray à 32 ans. 7 candidats engagés, 6 opposants face au président El Razouani qui brigue un deuxième mandat. La Mauritanie votait donc hier pour son élection présidentielle. La compilation des résultats se poursuit. La commission électorale tient les comptes sur son site internet. Les premières tendances pourraient tomber dès aujourd'hui. Mais en attendant, on revient sur la journée d'hier avec notre envoyé spécial à Nouakchott, Léa Lisa Vesterhoff.
Un Mauritanien sur deux au moins est allé voter, selon le taux de participation publié par la commission électorale hier soir, un chiffre qui pourrait encore évoluer. Dans l'ensemble, la journée de vote s'est déroulée dans le calme, dans la capitale, sans incident majeur signalé non plus dans le reste du pays. Seule ombre au tableau, le manque d'observateurs nationaux et internationaux, une 30aine d'observateurs de l'Union africaine seulement et 3 experts de l'Union européenne. Du côté de la société civile mauritanienne, 750 observateurs ont été déployés, bien peu au vu des 4504 bureaux de vote. À Nouakchott, les représentants d'au moins 4 candidats sur 7 étaient généralement présents dans les bureaux de vote, un poste crucial pour s'assurer que toutes les procédures sont respectées. Nouveauté cette année, la plateforme en ligne MyCeni, censée accélérer la publication et le contrôle citoyen sur les résultats. Grâce à cette transmission informatique, des premiers résultats provisoires pourraient être rendus publics dès aujourd'hui. Léa Lisa Vesterhoff, Nouakchott, RFI.
Dans l'est de la RDC à présent, après la prise de Kanyabayonga vendredi, les rebelles du M23 se sont emparés d'une autre ville du Nord Kivu, à 15 km plus au nord, hier, la ville de Kaya, qui compte quelques 50 000 habitants. Un point de passage vers les territoires de Lubero et Butembo. Une centaine d'hommes du M23 a d'ailleurs pris dans la foulée la direction du Nord et d'autres combats ont été signalés sur la route dans la soirée. Le président Tshisekedi, en réaction, a réuni un conseil supérieur de défense à Kinshasa. Et c'est donc dans ce contexte sécuritaire troublé que la RDC célèbre sa fête nationale cette année, 64e anniversaire de l'indépendance. Une date qui renvoie naturellement vers l'époque de Patrice Lumumba, souvent considéré comme le père de cette indépendance congolaise. Et pour l'occasion, RFI vous propose justement une rencontre avec l'un de ceux qui fut les premiers à croire au combat de Patrice Lumumba. Il s'appelle Léon Nkanga, il a aujourd'hui 88 ans. Il vivait à Kisangani, chef-lieu de la province de Tchopo, qui était le bastion politique de Lumumba. Et c'est Joseph Kaongo qui nous le présente ce matin.
Bonjour. Soyez les bienvenus.
C'est par une poignée de main chaleureuse que Léon Nkanga nous accueille dans sa parcelle. Tout sourire, ce retraité de la fonction publique explique pourquoi il a été un disciple de la première heure du président du MNC et de sa promesse d'indépendance.
J'étais curieux d'aller l'attendre et le voir moi-même comme ça, parce qu'il fera la restitution de cette conférence panafricaine. Il a fait comprendre à l'assistance pourquoi on doit demander l'indépendance. Et c'est par là que nous avons compris que voilà, l'indépendance et le changement, être libre.
Suspendu à la voix de Lumumba le 30 juin 1960 à la radio, la joie était grande à Kisangani, se souvient Léon Nkanga, lors de la déclaration de l'indépendance.
Tout le monde jubilait, les gens jubilaient pour attendre que nous sommes devenus indépendants. Et surtout les quelques intellectuels qui comprenaient le mot indépendance. Parce que beaucoup ne comprenaient pas ça.
64 ans après l'indépendance, pour Léon Nkanga, il revient aux autorités de s'approprier le combat de Lumumba.
Lumumba a fait ce qu'il a fait. Nous sommes indépendants. Maintenant, 64 ans après, il y a eu combien de gouvernements? J'ai l'organisation. Il ne nous manque rien. Nous avons toutes les têtes. Mais on ne sait pas exactement pourquoi ça ne marche pas bien.
À 88 ans, l'ancien chef de section du MNC à Kisangani a su rester fidèle à l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Joseph Kaongo, Kisangani, RFI.
En Centrafrique, la coalition des patriotes pour le changement a revendiqué hier une attaque meurtrière contre les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes de l'ex-groupe Wagner. Attaque qui se serait déroulée dans le village de Gouya, dans la préfecture de Ouaka. Selon les rebelles de la CPC, elle a causé des pertes humaines importantes dans les rangs de l'armée centrafricaine et parmi ses alliés russes, mais aucun bilan précis n'a été communiqué. Les autorités militaires centrafricaines que nous avons contactées n'ont pour le moment pas réagi. Une prise stratégique au Soudan. Engagés dans une guerre contre l'armée régulière depuis plus d'un an, les paramilitaires des forces de soutien rapide se sont emparés hier d'une base à Singa, la capitale de l'état de Sennar, dans le sud-est. Les combats sur place auraient provoqué la fuite de plusieurs milliers d'habitants à l'heure, je vous le rappelle, où cette guerre civile soudanaise a déjà provoqué au total le déplacement de près de 9 millions de personnes.
Dakar, 92 FM.
Les députés devaient se réunir hier samedi au Sénégal pour un débat d'orientation budgétaire. Mais voilà que le bureau de l'Assemblée nationale a finalement décidé d'annuler ce débat. C'est ici un nouvel épisode du bras de fer qui dure depuis plusieurs jours autour du refus du Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration politique générale devant l'Assemblée nationale. L'opposition majoritaire dans l'hémicycle agite en face la menace d'une motion de censure. À Dakar, précision de Juliette Dubois.
Le bureau de l'Assemblée nationale explique avoir annulé ce débat qui devait se faire en présence du ministre des Finances pour marquer son désaccord avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Celui-ci refuse de faire sa déclaration de politique générale ou DPG devant l'Assemblée nationale tant que le règlement intérieur ne sera pas modifié. Le rôle de Premier ministre n'y figure plus depuis 2019. Pour Abdoumbo, chef du groupe parlementaire Benobok Yakar de la majorité, Ousmane Sonko manque de respect aux institutions sénégalaises.
Monsieur le Premier ministre a réduit l'Assemblée nationale à sa plus simple expression. Parce qu'il a dit que d'abord, il ne considère pas l'Assemblée nationale, qu'il ne viendra pas tenir sa déclaration de politique générale. Nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale de prendre contact avec le président de la République pour que ce problème puisse être réglé.
En parallèle, les députés Benobok Yakar menacent le gouvernement d'une motion de censure et de présenter un projet de loi pour rendre impossible une dissolution de l'Assemblée nationale par le président. Ayib Dafé, président du groupe parlementaire Yehouya Askanoui, fidèle à Ousmane Sonko, n'est pas inquiet et renvoie ses confrères au règlement.
Ils n'ont qu'à faire leur motion de censure, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est ridicule. Pour la faire, il faut qu'ils renvoient au règlement intérieur, alors qu'ils ont supprimé la motion de censure dans le règlement intérieur. Nous, on leur demande, remettez la motion de censure, remettez la DPG. Ils ne veulent pas le faire, c'est ubuesque quoi en réalité. On est bloqué dans rien. Le fait de ne pas faire une déclaration de politique générale n'empêche pas le gouvernement de dérouler ce qu'il a déroulé, sa politique.
Si le règlement intérieur n'est pas modifié le 15 juillet, Ousmane Sonko a annoncé qu'il ferait sa déclaration devant une assemblée citoyenne. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le Maroc, où le Palais Royal annonçait hier le décès de la mère du roi Mohamed VI, Lala Latifa, épouse du roi Hassan II. Âgée de 78 ans, elle était malade depuis plusieurs années. La dégradation de son état de santé était souvent évoquée par la presse marocaine. Dans son communiqué, le palais évoque une profonde tristesse. La télévision nationale a diffusé hier du Coran quelques heures avant cette annonce. Ces valises resteront en Turquie. On parle football maintenant et de l'international marocain Hakim Ziyech, justement, qui s'engage définitivement avec le club turc de Galatasaray. Âgé de 32 ans, l'ailier était prêté la saison dernière par Chelsea pour retrouver du temps de jeu. Et malgré des blessures et son absence durant la CAN 2024, il a fini par convaincre les dirigeants turcs de miser sur lui, Sofiane Amazian.
Lors de la célébration du titre de champion de Turquie en mai dernier, les supporters de Galatasaray ont donné de la voix pour scander le nom d'Hakim Ziyech. L'international marocain est le symbole d'un mercato réussi par le club stambouliote marqué par ce titre de champion donc et une supercoupe de Turquie. Avec 23 matchs disputés, pour 8 buts et 4 passes décisives, Ziyech prolonge son aventure turque et dit adieu au marasme londonien de Chelsea. Acheté à prix d'or en 2020 pour 40 millions d'euros, le marocain faisait partie des meilleurs joueurs africains du moment, longtemps comparés à Mohamed Salah et Sadio Mané, alors associés du côté de Liverpool. Mais ses blessures à répétition et le manque de stabilité chez les Blues ont fait chuter Ziyech dans la hiérarchie. Malgré des statistiques plutôt moyennes, 107 matchs joués pour 13 buts et 14 passes décisives, le meneur des Lions de l'Atlas peut se vanter d'avoir soulevé une Ligue des Champions en 2021. À 32 ans, Ziyech n'a rien perdu de sa belle patte gauche et peut encore rendre de fiers services à un club qui veut passer un cap en cours. Coupe d'Europe, troisième de leur groupe de Ligue des Champions la saison passée. Les Turcs veulent désormais s'inviter parmi les grands.
Les explications de Sofiane Amazian. Et notez d'ailleurs un autre transfert. Un autre Marocain a choisi lui aussi son nouveau club, Younis Abdelhamid. Après cette saison à Reims en France, il rejoint toujours en France le promu Saint-Etienne pour un an, plus un an en option. RFI 10h40, excellente journée à tous sur la Radio du Monde.